Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 24 janvier. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour cette heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, Europa Voice, épisode 73, et se focus sur la création d'un passeport vaccinal. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 24 janvier, le Victoria enregistre un 18e jour consécutif sans cas de coronavirus transmis localement. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg déclare qu'il est inévitable que les géants du numérique comme Google et Facebook paieront pour le contenu. Et puis le président français Emmanuel Macron veut durcir la loi contre l'inceste. Le Victoria a enregistré sa 18e journée consécutive sans nouveau cas de coronavirus acquis localement. 12 000 personnes se sont fait tester hier. Les limites de rassemblement à l'intérieur des maisons ont doublé pour atteindre 30 personnes et davantage des habitants du Victoria bloqués entre les États pourront rentrer chez eux après un nouvel assouplissement des restrictions aux frontières entre les États. Les résidents de quelques banlieues de Nouvelle-Galles du Sud exhortés à surveiller les symptômes du coronavirus après la détection de fragments viraux dans deux usines de traitement des eaux usées. New South Wales Health déclare que son programme de surveillance a récemment détecté des fragments de coronavirus dans les usines des eaux usées de Liverpool et de Glenfield, dans le sud-ouest de Sydney. Il survient alors que le pays enregistre un autre jour sans aucun nouveau cas acquis localement. Trois nouvelles infections ont été détectées en quarantaine d'hôtels dans le Victoria, deux en Australie-Occidentale et une en Nouvelle-Galles du Sud. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg a déclaré qu'il est inévitable que les géants du numérique comme Google et Facebook paieront pour du contenu en Australie. Les commentaires du trésorier interviennent après que Google est menacé de supprimer l'accès à son moteur de recherche si un code multimédia proposé était adopté. Le code proposé par Josh Frydenberg et l'ACCC, Australian Competition and Consumer Commission, oblige les entreprises de technologie à payer pour le contenu des nouvelles. Mais Google affirme que le code est impossible à mettre en pratique et pose un risque financier énorme. Josh Frydenberg déclare que le gouvernement ne répondra pas aux menaces.
It seems the digital giants keep changing the goalposts. Originally, they were against what we were putting forward on algorithms. Then they were against what we were putting forward on a final arbitration model. Now it seems they're against paying for any clicks on search.
L'Organisation mondiale de la santé commencera à vacciner les habitants des pays pauvres dès le mois prochain, après avoir conclu un accord avec Pfizer pour 40 millions de doses de son vaccin. L'OMS a signé des accords portant sur des centaines de millions de doses de COVAX afin de vacciner les populations des pays pauvres et des pays à revenus intermédiaires. Le vaccin Pfizer-BioNTech est le seul vaccin à ce jour avec une approbation d'urgence. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, déclare que les développements sont encourageants.
Together, these announcements mean COVAX could begin delivering doses in February. COVAX is on track to deliver 2 billion doses by the end of this year.
Plus de 2500 personnes ont été arrêtées lors de manifestations en Russie contre l'arrestation du chef de l'opposition Alexei Navalny, Yulia Navalnaya. L'épouse de Alexei Navalny est l'un des détenus après que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les villes de Russie. Le chef de l'opposition a été arrêté la semaine dernière, le 17 janvier. Reportage de Jean-Didier Revoin pour Radio France Internationale.
Ils étaient plusieurs milliers à Moscou, de 5 à 10 000 personnes, rassemblées autour de la place Pouchkine. Ils scandaient « Pour la vérité, Poutine voleur » ou « Liberté pour Navalny » devant un important dispositif de sécurité déployé par la mairie de la capitale, comme Olga, 31 ans.
J'aurais soutenu n'importe quelle personne qui serait dans sa situation, mais bien sûr, je m'inquiète beaucoup pour Alexei. Cela n'aide pas à faire changer le système, mais j'espère bien qu'un jour, nos voix seront entendues.
Avec Olga, Sergueï, 34 ans, est persuadé que cette manifestation n'aura pas d'influence immédiate, mais pour lui, l'importance de ces rassemblements est ailleurs.
Par exemple, pour les gens qui ne vivent pas à Moscou, qui n'ont pas la possibilité d'accéder à l'information, je me dis qu'il y a une petite possibilité de filmer tout ça et d'envoyer la vidéo aux parents.
La police a procédé à de nombreuses arrestations, parfois même sans ménagement. Les autorités avaient prévenu qu'elles ne toléreraient pas ce rassemblement qualifié d'illégal, mais on ne peut pas dire non plus qu'elles ont fait preuve d'une tolérance zéro. Sur l'ensemble du pays, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté, un chiffre conséquent qui montre qu'Alexei Navalny dispose d'une solide base de partisans. Mais exercera-t-elle une influence déterminante sur le pouvoir? Rien n'est moins sûr. Pour rappel, Alexei Navalny risque d'être condamné à plus de 13 ans de prison dans différentes affaires. Et il n'est pas sûr que la mobilisation d'aujourd'hui incite les autorités à la clémence.
La British Medical Association appelle le gouvernement britannique à réduire l'écart entre l'administration des premières et deuxièmes doses de vaccin Covid-19 à sa population. Le gouvernement a décidé d'élargir l'intervalle de 12 semaines entre chaque dose afin de vacciner davantage de citoyens. Mais l'Organisation mondiale de la santé et les fabricants de vaccins recommandent un écart de 3 à 4 semaines. Le président de la British Medical Association, Dr. Chand Nagpal, affirme que la réduction de l'intervalle entre les doses permet une meilleure protection.
We don't think this will have a major impact on the rollout of the vaccination program. And if you do give second doses at 6 weeks rather than 12 weeks, you're freeing up those appointments in 12 weeks, so more people can have them then. So in actual fact, this won't reduce the numbers who can be vaccinated, but what it would do is vaccinate people in accordance with the best available evidence and with the greatest assurance of protection after the second dose.
Hong Kong a verrouillé l'une des zones les plus denses et peuplées de la ville dans une démarche pour contenir une épidémie de Covid-19. Les responsables affirment que les habitants de 16 bâtiments de Yeo Sim Mong seront confinés à leur domicile jusqu'à ce que tout le monde ait reçu des résultats de tests négatifs. Les autorités ont déployé 3000 agents du gouvernement pour tester près de 10 000 résidents en 2 jours. Selon la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, les risques sont élevés.
In this area, there are high risks to public health, especially in terms of environmental risks and risks of infection. And our assessment is that several buildings here have problems with their sewage systems.
La Chine a enregistré plus de nouveaux cas alors que le pays marquait l'anniversaire du premier verrouillage du Covid-19 à Wuhan. Shanghai a imposé de nouvelles restrictions. Une campagne de tests de la ville de Harbin est en cours à la suite d'infections au coronavirus. Des mesures strictes sont également en place pour la prochaine fête du printemps chinois. Il y a un an, la ville de Wuhan était confinée. Depuis octobre, il y a une exposition qui revient sur le confinement. Précision de Simon Lepalâtre pour RFI.
Le ton est donné d'entrée dans cette exposition « Le peuple d'abord, la vie d'abord » sur l'épidémie de Covid-19 à Wuhan. Pour accueillir les visiteurs, une longue frise chronologique sur fond rouge rappelle les décisions prises par le président Xi Jinping, puis un grand écran le montre prononçant discours après discours. Mais les visiteurs ne semblent pas dérangés par la lourdeur de la propagande car, il faut le reconnaître, le reste de l'exposition est très bien fait. Photos, reconstitutions, il y a même un camion-grue issu du chantier des hôpitaux construit en 2 semaines. À la sortie, les visiteurs sont conquis. Wang Feng, 68 ans, a perdu sa belle-mère du Covid en février et son beau-père, 88 ans, n'a survécu qu'après plus de 50 jours à l'hôpital dont une partie dans le coma.
Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il me le disait hier encore, il ne se souvient plus. Alors un jour il fera beau, je voudrais l'emmener voir cette exposition. Elle est très bien faite, il faut vraiment venir la voir.
Et à la sortie de l'exposition, un petit véhicule vaporise du désinfectant sur l'esplanade à l'extérieur. Un rappel que la Chine n'en a toujours pas tout à fait fini avec le Covid-19.
En France maintenant, le président français Emmanuel Macron veut durcir la loi contre l'inceste. Explication de Julien Chavannes pour RFI.
Col roulé sombre, visage grave, Emmanuel Macron s'adresse directement aux victimes.
Vous qui vous êtes libéré d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit et vous ne serez plus jamais seul.
Le livre de Camille Kouchner contre son beau-père Olivier Duhamel a rouvert des plaies en France où une personne sur 10 se déclare victime d'inceste. 2 ans et demi après la loi Schiappa, le chef de l'État veut aller plus loin.
C'est aujourd'hui à nous d'agir. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut les accompagner. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. La honte, aujourd'hui, change de camp.
Emmanuel Macron annonce d'ores et déjà plusieurs mesures. La création de rendez-vous de dépistage et de prévention aux primaires et aux collèges. Le remboursement des soins psychologiques pour les enfants victimes d'inceste. Le ministre de la Justice commencera dès lundi ses consultations pour durcir la loi sur 2 points clés. L'âge de consentement et le délai de prescription.
En Afrique maintenant, au Congo-Brazzaville, avec Denis Sassou Nguesso qui annonce sa candidature à la présidentielle du 21 mars prochain. Reportage de Loïcia Martial pour RFI.
À Kibangu, c'est après une pluie qui est tombée sans discontinuer toute la matinée que les notables de la contrée ont remis au président ce qu'il désigne par les attributs du pouvoir, une vieille natte et une autre toute neuve, symbole de la continuité selon leur expression. À ces nattes, il faut ajouter une peau et des dents de panthère et des noix de cola. Les notables ont, avant de lui remettre ses attributs, demandé avec insistance au président Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à la présidentielle du 21 mars. Il a répondu sans détour.
Oui, et nous nous portons candidats à l'élection présidentielle de mars prochain et nous pensons qu'ensemble, dans la paix, nous allons poursuivre la longue marche vers le développement de notre pays.
Des jeunes ex-combattants du Niari, ayant tourné le dos à la violence, regroupés au sein d'une association dénommée Dynamique pour la paix, lui ont remis symboliquement une enveloppe de 5 millions de francs CFA comme leur contribution à sa caution à la candidature. Caution fixée officiellement à 25 millions de francs CFA.
Le célèbre journaliste américain Larry King est décédé à l'âge de 87 ans. Larry King avait été hospitalisé après avoir contracté le Covid-19. Le journaliste a réalisé quelques 50 000 interviews avec des présidents, des dirigeants mondiaux, des célébrités hollywoodiennes et des stars du sport au cours de sa carrière. Son portrait avec Thomas Harms pour RFI.
Larry King est un nom que tout le monde connaît aux États-Unis. Pendant 25 ans, l'animateur reconnaissable à ses bretelles présentait le Larry King Live sur CNN. Larry King a interviewé plus de 50 000 personnes, des célébrités, tous les présidents depuis Richard Nixon, mais aussi des experts comme des experts en OVNI. Il joue son propre rôle dans plusieurs films comme Ghostbusters en 1984 ou Ennemi d'État avec Will Smith. Sa vie fait aussi la une des tabloïds. Marié 8 fois, il perdra toute sa fortune au jeu et devra se déclarer en faillite personnelle 2 fois. Il n'a pas fait d'études et ne s'est jamais déclaré journaliste, mais plutôt animateur d'information. Il se vantait de ne jamais préparer ses interviews ou de ne jamais lire le livre de ses invités. Son côté irrévérencieux et sensationnaliste faisait que les politiciens l'aimaient et que les journalistes s'en moquaient.
La météo en Australie et plus de la moitié de la population ressentira l'effet d'une vague de chaleur alors que cette vague approche le sud-est du pays, le reste du Victoria, la Tasmanie, les parties ouest et sud de la Nouvelle-Galles du Sud connaîtront des hausses de température demain lundi. Et à Perth, aujourd'hui, il fera 26 degrés, Adélaïde 41, Melbourne 34, Hobart 26, Canberra 38, Sydney 33, Brisbane 29, Alice Springs 35 et à Darwin, maximal de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Le Victoria enregistre un 18e jour consécutif sans cas de coronavirus transmis localement. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg déclare qu'il est inévitable que les géants du numérique comme Google et Facebook paieront pour le contenu. Fin du journal et merci de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Vendée Globe. Charlie Dalin au dernier pointage était en tête devant lui, Burton, 42 000 d'avance et en troisième position Boris Herrmann. On passe au foot en France, il y avait deux matchs hier de la 21e journée. Lens battu par Nice 1-0, Marseille s'est incliné face à Monaco 3-1. Le Paris Saint-Germain garde la tête du classement avec 43 points, deuxième Lille 42 points et troisième Lyon avec 40 points. Monaco pointe à la quatrième place avec 39 points. Noël Le Graët, à 79 ans, se représente pour la présidence de la Fédération française de foot. Explication d'Olivier Pron pour RFI.
Noël Le Graët a consulté, dit-il, les familles du foot français et il a décidé de rempiler à 79 ans, guéri enfin de la leucémie qui le touchait ces deux dernières années. Face à lui, dans un mois et demi, il y aura Frédéric Thirier, ex-président de la Ligue, et Michel Moulin, entrepreneur et ancien patron du PSG. Un match à trois, des soutiens et des idées de part et d'autre, mais l'avantage du sortant pour le Breton, dont le principal partisan est Didier Deschamps, son sélectionneur. 10 ans de règne pour Le Graët, homme d'affaires ayant fait fortune chez lui à Guingamp dans le surgelé, les conserves et le poisson. Une décennie déjà, des succès comme le développement du football féminin, Coupe du Monde 2019 en France organisée, et un titre mondial chez les hommes un an plus tôt. Des échecs aussi, ou en tout cas des critiques. Un football amateur en chute libre, 4000 clubs ont disparu depuis 2011, la gestion du cas Benzema exclu des Bleus depuis 5 ans, et l'affaire de la sextape, des bruits de harcèlement moral au sein de la fédération et des propos malheureux en septembre dernier sur le racisme, peu présent, disait-il, dans le foot français. Rien qui empêche donc cet habile stratège, forte tête et homme de pouvoir, de se lancer à nouveau dans la bataille qui, s'il l'emportait, le mènerait à lâcher prise, ou pas, à 83 ans.
Et le verdict sera connu le 13 mars prochain. En Angleterre, un match de la 11e journée avec la victoire d'Aston Villa contre Newcastle 2-0. Il y avait 5 matchs de la Coupe hier. Christophe Diremzian, RFI.
L'énorme coup de tonnerre du jour, l'élimination d'Arsenal, tenant du titre, sorti par Southampton 1-0 sur un coup de malchance, hein, un but contre son camp du défenseur brésilien Gabriel Magalhães. Qualification de Manchester City par ailleurs, aux dépens de Cheltenham, c'était un petit peu plus facile. Cheltenham étant un club de 4e division, 3-1. Demain, le choc Manchester United-Liverpool.
Jetons maintenant un coup d'œil sur ce qui s'est passé hier en Espagne et en Italie avec Christophe Diremzian à nouveau.
L'homme du jour s'appelle Youssef El Nesyri, auteur d'un triplé avec le FC Séville face à Cadix. Le Marocain permet aux Andalous de conserver leur troisième place. Actuellement, le Real Madrid est à Alavés, sans son entraîneur Zinedine Zidane, qui, vous le savez, a été testé positif à la Covid-19. 4-1 pour le Real Madrid à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, avec notamment un doublé de Karim Benzema. Le Milan AC, lui, est sacré champion d'hiver en Italie, malgré une lourde défaite à domicile face à l'Atalanta Bergame, 3-0 à l'occasion de la 19e journée.
En Allemagne, Leipzig, deuxième, battu par Mayence, 2-1. Le Bayer Leverkusen, troisième, battu par Wolfsburg, 1-0. On passe en Afrique, où le Chan se poursuit. Il y avait deux matchs hier. Reportage Zéphirin Quadio pour RFI.
Limbé accueillait aujourd'hui les matchs de la deuxième journée du groupe D. La Guinée et la Zambie ont fait match nul, un but partout. Les Guinéens sont passés très près d'une deuxième victoire dans la compétition en ouvrant le score à l'heure de jeu. Mais les Chipolopolo ont égalisé à 3 minutes de la fin du match. Et il faudra donc attendre la troisième journée pour se qualifier en quart de finale. L'attaquant guinéen Morla Issila au micro de Fabien Essiane.
On a géré le match jusqu'à là, au moins 80 et quelques minutes. Vers la fin, il n'y a pas eu vraiment assez de concentration par rapport à ce que le but nous a arrivé. Mais sinon, c'est le football, ça arrive aussi. Mais cela n'est pas dit qu'on va se laisser faire. On va essayer de se corriger les erreurs qu'il faut. Donc, on reste toujours premier parce qu'ils ont 4 points. On a 4 points, mais plus de buts, on est devant. Donc, c'est ça qu'on va essayer de corriger pour qu'on puisse se qualifier pour le prochain match.
Le prochain match, ce sera mercredi prochain face à la Tanzanie qui s'est relancée en battant la Namibie, 1-0. Les Tanzaniens sont 3e du groupe D à une longueur de la Guinée et de la Zambie, alors que la Namibie est d'ores et déjà éliminée avec 1-0. La suite de ce CHAN, c'est le début de la 3e journée ce dimanche avec les matchs du groupe A. Le Mali est idéalement placé pour aller en quart avant d'affronter un Zimbabwe déjà éliminé, alors que le Cameroun et le Burkina Faso se disputeront l'autre ticket avec un léger avantage pour le pays hôte qui compte un point d'avance.
Et puis la création d'une Super League en Europe pour les équipes les plus lues, puissantes et d'actualité, mais la FIFA est contre, comme nous l'explique Alejandro Valente pour RFI.
Pour les promoteurs de la Super League, les compétitions actuelles dont la Ligue des champions de l'UEFA sont devenues obsolètes. Inspirée de la NBA américaine, la Super League doit réunir un nombre limité de clubs triés sur le volet. Se déroulant le week-end au détriment des championnats nationaux, elle devrait faire exploser les droits télé jusqu'à 900 millions d'euros par an et par club. Un projet qui relevait encore récemment du fantasme. Mais la crise du coronavirus a changé la donne. Les présidents de certains clubs très puissants se sont mis en tête de faire de ce projet une réalité de 2024 malgré l'opposition de l'UEFA. Ils laissaient même entendre que la FIFA n'y était pas hostile. Les communiqués publiés par son président Gianni Infantino clarifient donc les choses. Au-delà des clubs, les joueurs qui s'y engageraient ne pourraient disputer ni Coupe du Monde, ni Euro, ni CAN. Et la FIFA de mettre en avant son projet à elle, une nouvelle Coupe du Monde des clubs XXL, qu'elle promet également très lucrative.
Le handball avec le mondial en Égypte à huis clos et la victoire de la France vendredi contre l'Islande 28-26. Écoutez l'entraîneur des Bleus, Guillaume Gilles, sur European Broadcasting Union.
We are very happy about the 2 points this evening. It was very important for us in this championship to add 2 more points against Iceland, and that's why it's open a little bit more the door to the quarterfinal, and that's why we are very satisfied today because it was a very big fight against Iceland.
Et puis un mot de ski, biathlon, la belle performance de la Française Anaïs Chevalier-Boucher jeudi à Antols. Précision de Martin Guèze pour RFI.
La Finlande après l'Allemagne place au site d'Antols un circuit long, très long, dur, très dur, mais qui a vu la Française Anaïs Chevalier-Boucher arracher la 3e place de la course individuelle. Une belle revanche pour elle qui avait terminé bonne dernière de la dernière course précédente. Mais la tricolore avait du mal à savourer après en avoir tant bavé.
J'ai réussi à faire le job, c'était dur aujourd'hui, très dur. C'était long, trop long, très long. C'est bien d'aller chercher de la confiance, surtout en tir. J'en ai vraiment besoin en ce moment. J'étais vraiment à mon affaire aujourd'hui. Et c'est une course qui était vraiment longue, c'est une course de patience. Et en fait, dès le deuxième tour, je me suis dit, mais là, j'en ai marre, quoi. En fait, la piste est tellement monotone, il faut tellement travailler tout le temps. J'étais toute seule tout le long, malheureusement pour moi. Et c'était long, c'était terrible. Je suis contente que ce soit fini parce que là, j'ai trouvé ça éternellement long. 3e semaine individuelle en Tolls, c'est quand même 3 mots qui font mal.
Ouais, ça fait quand même du bien quand ça s'arrête pour Anaïs Chevalier-Boucher au micro de la chaîne L'Équipe. 3e en individuel en Tolls derrière l'Autrichienne Lisa Hauser.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. 13h32 sur les ondes de SBS. Vous écoutez le programme en français et dans 36 secondes, on passe au 73e épisode de Europa Voice et se focus sur la création d'un passeport vaccinal et vous serez en compagnie de Nathanaël Bloch et de Christophe Mallet.
Europa Voice numéro 73, sous le soleil de Melbourne. Je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Allez, on va parler du coronavirus surtout de cette question autour du passeport vaccinal. On est rentré dans une phase de vaccination un peu partout dans la planète, pas encore en Australie, mais il y a quand même pas mal de pays qui vaccinent à moyenne ou grande échelle. En Europe, ça vaccine un peu partout. La question du passeport vaccinal, on l'avait vu venir avec ses gros sabots, mais on s'y était pas forcément attardé. Et aujourd'hui, elle se pose réellement, cette question.
Oui, alors peut-être pour nos auditeurs, Christophe, déjà définir ce qu'est un passeport vaccinal, c'est simplement un document qui attesterait qu'une personne a bien été vaccinée contre la Covid-19 et qui permettrait, alors après c'est le cas échéant selon les pays, déjà de voyager librement à l'étranger, mais aussi de se rendre par exemple dans des lieux publics ou au restaurant ou au cinéma. Donc déjà, entendons-nous sur les termes, c'est de ça dont il s'agit, le passeport vaccinal, c'est pas un autre document diplomatique officiel, c'est une simple attestation, mais c'est important parce que dans le wording, forcément, ça a un impact d'appeler ça un passeport vaccinal. Donc c'est la question de la définition. Après, effectivement, tout s'est accéléré en début d'année. Alors, du côté de la Grèce, de manière assez surprenante, hein, c'est pas forcément l'acteur duquel on attendrait le plus que cette question du passeport vaccinal elle remonte, mais en fait, c'est la Grèce qui, voulant sauver sa saison touristique, avait voulu, via cette initiative du passeport vaccinal, en fait, accélérer les mouvements de personnes et l'autorisation de touristes à revenir au sein de la Grèce. Et donc, en fait, comme la Grèce, par l'intermédiaire de son premier ministre, avait avancer cette piste début janvier, après forcément l'Union Européenne, notamment par la voix aussi d'Ursula von der Leyen, a dû se positionner et c'est là où on voit qu'on a beau parler d'unité au sein de l'Union Européenne, on n'a pas encore de chemin commun sur cette question du passeport vaccinal. Vous avez en fait à l'heure actuelle quelques pays que je pourrais qualifier de... qui ont besoin de cette manne touristique, qui ont été durement touchés par la Covid-19, l'Espagne, Malte ou le Portugal, par exemple, qui sont plutôt alignés sur la position de la Grèce par rapport à ce passeport vaccinal. Et vous en avez d'autres, au rang desquels la France, pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait peut-être revenir, pour l'instant, ne semble pas vouloir mettre en place ce dispositif, non pas de traçage, Christophe, mais ce dispositif, cette attestation pour permettre aux personnes de voyager.
Mais est-ce que ça, justement, c'est pas, et vous l'avez dit, est-ce que c'est pas dans la lignée de tout le débat qu'il y avait eu au tout début de cette pandémie avec les applications, chaque État faisait son application, est-ce que c'est pas un peu la saison 2, justement, de l'application, de dire, ok, y a eu une application de traçage sur pendant X nombre de mois, maintenant, c'est une application de... qui n'est pas forcément de traçage, mais c'est une application pour prouver ou pas qu'on a fait ces vaccins. Je sais pas, moi, en vivant dans un pays comme l'Australie, on serait tenté de se dire où est le mal, où pourrait être le mal. Par contre, en France, on voit quand même pas mal de petits problèmes par rapport à ce passeport vaccinal. Est-ce qu'on peut en parler, justement ?
Oui, Christophe, alors si on prend la position française, par exemple, il y a principalement trois oppositions à ce passeport vaccinal, ou en tout cas trois réticences qui ont été avancées par le gouvernement ou par les agences officielles. Alors d'abord, il y a le classique atteinte aux libertés individuelles. Effectivement, si on considère qu'il faut ce passeport vaccinal pour se déplacer, vous ne serez pas à même de vous déplacer si vous n'êtes pas en possession du document. Et donc, si vous n'êtes pas en possession du document, certains déjà considèrent que c'est une atteinte aux libertés individuelles. Sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, Ursula von der Leyen a une position très en même temps macronienne, parce que d'un côté, elle déconseille fortement tous les voyages non essentiels. Donc là, on n'est même pas au niveau du passeport vaccinal, mais on dit attention, ne faisons pas de voyages non essentiels en ce moment. Mais par contre, elle a réaffirmé qu'il était de la plus haute importance de continuer à faire fonctionner le marché unique. Alors ça paraît assez contradictoire, parce que à la fois, si on décourage fortement les voyages non essentiels, mais qu'on veut promouvoir le fonctionnement du marché unique, c'est un peu compliqué à envisager. Mais en tout cas, voilà, premier élément du côté français, c'est cette question des libertés individuelles. Le deuxième élément, Christophe, c'est les incertitudes qui entourent les différents vaccins à travers le monde. Parce qu'on sait que si ces vaccins empêchent le développement des symptômes de la maladie, on ne sait pas encore pour combien de temps ces vaccins protègent. Donc en fait, il y a d'une certaine façon une temporalité qui n'est encore pas assez définie de ces passeports vaccinaux, et vous imaginez bien la complexité de devoir renouveler, je prends cet exemple-là, un passeport vaccinal en fonction de l'efficacité avérée du vaccin. Et puis la dernière réticence au niveau français, c'est l'inconnu en fait qui concerne le fait que les personnes vaccinées peuvent quand même être porteuses du virus, mais de façon asymptomatique, et donc le transmettre. C'est-à-dire, en d'autres termes, vous avez le droit de vous déplacer parce que vous avez votre passeport, mais vous pouvez être asymptomatique et transmettre le virus à quelqu'un ailleurs.
Mais en l'occurrence, si on parle par exemple des restaurants, si on accepte les restaurants que les gens qui ont le passeport vaccinal, ça veut dire que c'est que les gens qui ont été vaccinés. Donc du coup, ces gens-là ne peuvent pas recontracter le coronavirus parce qu'ils ont déjà été vaccinés. Ça se débat.
Pour les lieux fermés, oui, mais alors là, on va vous rétorquer effectivement la question. C'est même pas question de liberté individuelle. C'est l'opposition politique. Donc il y a aussi un peu ce jeu d'exagération, mais il y a un petit peu ce deux poids deux mesures, une société à deux vitesses où après des privations de liberté pendant des mois, vous allez avoir une partie de la population. Parce que la question, c'est si votre population entière a les moyens de se faire vacciner la semaine prochaine. Alors évidemment, c'est la décision de chacun de se faire vacciner, d'avoir son passeport vaccinal. Mais on parle quand même de la France où on sait qu'il y a du retard dans la vaccination. Donc la question, c'est aussi une question de temporalité, c'est de se dire mais peut-être qu'il y a des gens qui pourront se faire vacciner que dans 8 mois. Et donc il y a aussi une rupture d'égalité entre ceux qui se sont fait vacciner, qui peuvent avoir maintenant un passeport vaccinal, et ceux qui devront attendre parce qu'ils ne sont pas publics prioritaires, les jeunes par exemple, et donc qui eux de toute façon n'ont même pas la possibilité d'avoir ce passeport vaccinal. Juste sur ces questions-là et sur l'argument un peu plus scientifique, j'aimerais juste citer celui qu'on appelle le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, qui lui, alors, s'est dit clairement opposé au passeport vaccinal chez nos confrères de BFM TV. Alors je le cite, il a dit: je ne suis pas favorable pour des raisons d'abord scientifiques et un peu éthiques aussi. Si j'ai reçu le vaccin en février, j'ai 95% de chances d'être protégé en février, en mars, en avril probablement, mais en mai, juin, juillet, on n'a pas encore les informations. Dans l'état des connaissances, ce passeport serait une fausse sécurité. Donc vous voyez, on a quand même une position très forte de celui qui est en charge de cette stratégie vaccinale. Donc imaginez-vous, déjà en France on tâtonne, hein, on se pose des questions, on a des réticences. Il y a eu aussi une sortie du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, hein, qui s'est dit opposé à ce passeport vaccinal. Donc on n'est encore pas prêt de trouver une position commune européenne. Alors cette question du passeport vaccinal, elle s'applique à la fois en interne, hein, c'est en France, mais vous imaginez bien qu'entre les différents pays européens, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut harmoniser à la fois vos politiques internes et vos politiques entre États. Donc cette question du passeport vaccinal, à mon avis, elle va durer encore quelques semaines, Christophe.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Merci Internet.
Merci Christophe.
Et on passe maintenant à notre rubrique hebdomadaire, personnage, le personnage de la semaine, ce sera Jean-Pierre Bacri.
bien notre chronique consacrée à l'une des personnalités de la semaine. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasseau. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à Jean-Pierre Bacri, l'acteur de cinéma, décédé lundi dernier.
Oui, il s'est éteint à 69 ans, Jean-Pierre Bacri, né en Algérie en 1951. Il souffrait d'un cancer, c'est l'un des acteurs et scénaristes, l'un des plus talentueux de ces 30 dernières années, Jean-Pierre Bacri. Sa mort a suscité une très profonde émotion dans le monde du cinéma français, bien entendu, et dans l'opinion publique. Il n'était pas forcément, c'est vrai, très connu en dehors des frontières françaises. Hein. On ne parle pas là d'un Jean Gabin, d'une Catherine Deneuve, d'un Gérard Depardieu. Mais Jean-Pierre Bacri avait un style unique. Il incarnait dans tous ses films le rôle très souvent du râleur, des personnages bougons, un peu tristes, un peu déprimés, l'anti-héros en quelque sorte. Le français moyen, vous diront certains. En tout cas, beaucoup de gens s'identifiaient à lui. Jean-Pierre Bacri, qui a quitté l'Algérie à l'âge de 10 ans, il n'y est jamais retourné ensuite. Il débarque à Cannes avec ses parents dans le sud de la France en 1962. Il a voulu un temps devenir professeur de français et de latin, mais une fois monté à Paris, c'est le théâtre, l'écriture, le cinéma qui allait devenir une véritable révélation et qui allait le passionner, et les rencontres, bien entendu, les rencontres qu'il a pu faire tout au cours de sa carrière, notamment celle avec Agnès Jaoui.
Le duo Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, eh bien, ils sont vite devenus tous les deux indissociables.
Ils se sont rencontrés en 1987 et très vite ils sont devenus indissociables, inséparables, partenaires d'écriture, de théâtre, de cinéma et partenaires dans la vie. Hein. Ils ont partagé leur vie, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri. Ils sont restés ensemble jusqu'en 2012 et ont continué ensuite, même quand ils se sont officiellement séparés, à travailler ensemble. Au début des années 80, en tout cas Jean-Pierre Bacri, avant de rencontrer Agnès Jaoui, il avait commencé à se faire un nom dans le cinéma avec quelques rôles clés. On l'a vu dans Le Grand Pardon en 1982, Subway de Luc Besson en 1985, Un été en pente douce en 1987. Mais effectivement, c'est avec Agnès Jaoui qu'il va véritablement décoller et trouver son style, trouver son personnage. Ils vont écrire tous les deux deux pièces de théâtre hein, qui ont rencontré un succès phénoménal, Cuisine et Dépendance et Un air de famille. On est là au tournant des années 90, deux pièces qui ensuite ont été adaptées au cinéma. Jean-Pierre Bacri, qui n'a pas d'enfant, hein, il assumait ne pas ressentir le besoin de connaître la paternité. Il a reçu 4 fois le César du meilleur scénario original, 1 fois le César du meilleur acteur dans un second rôle. Il a été nommé plusieurs fois pour le rôle de meilleur acteur dans un premier rôle au César, mais il ne l'a jamais obtenu, celui-là. Alors, il y avait ses duos avec Agnès Jaoui, mais aussi des films cultes comme Didier, le film où il joue le rôle d'un agent de foot qui se retrouve à garder le chien d'une amie, et ce chien, un labrador, va soudainement, pendant la nuit, rôle joué par Alain Chabat, prendre une apparence humaine. Didier, une apparence humaine pour ce chien, mais en gardant sa mentalité de chien. Certaines répliques du film, on en entendra quelques-unes tout à l'heure, sont devenues vraiment des répliques cultes. On citera encore On connaît la chanson, film d'Alain René, dont il avait signé le scénario avec Agnès Jaoui et où il jouait, Le goût des autres, Les sentiments, et puis comme dernier grand succès, Le sens de la fête, film sorti en 2017, hein, Le sens de la fête, où là, Jean-Pierre Bacri, Max, dans le film, joue le rôle d'un organisateur de mariage, quelque peu fatigué, désabusé, et qui est en décalage avec les jeunes générations.
On va écouter maintenant quelques répliques cultes de l'acteur.
Oui, alors forcément, depuis quelques jours, toutes ces répliques qui ont façonné son personnage, eh bien, elle tourne en boucle sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux, les télévisions qui reprogramment ces films, des répliques cultes. Et pour commencer, je vous propose un extrait d'une interview télé que Jean-Pierre Bacri avait donnée en 2000 et où il expliquait son rapport à la célébrité, lui qui rappelait souvent cette phrase que lui disait son père quand il était enfant. Son père était facteur et il lui rappelait que pour lui, un balayeur ou un président de la République, c'était la même chose.
J'ai de l'orgueil, donc j'ai de l'estime pour moi-même. Et il me semble que je n'ai pas à user des artifices dont il faut user habituellement. Et vous voyez que ça rejoint les préjugés. Le mec qui se rase pas, par exemple. Donc je trouve qu'il faut passer là-dessus et qu'effectivement j'aime pas une certaine séduction. J'aime pas le sourire à tout prix. J'aime pas être joli pour plaire à la ménagère de moins de 50 ans. Je m'en fous, quoi. Je compte sur mes qualités propres et sur ma personnalité pour intéresser ou ne pas intéresser les gens. Si je les intéresse pas, je ne vais pas les racoler, je ne vais pas les chercher.
Monsieur.
T'as quelque chose de fort, genre eau de vie, ou on commence à s'emmerder ferme. Là. Si je ne me fête pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long.
Je finirai tout seul.
Oh patron, ne faut pas être défaitiste comme ça, vous pouvez pas savoir ce qui va arriver, ça se trouve...
Mais quoi, je te dis tu peux y aller, je finirai tout seul, qu'est-ce qu'il y a...
La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois? Une femme en short, une joueuse de tennis en short. Tu trouves ça normal, toi?
Une femme en short, si je trouve ça normal?
Ouais, une joueuse de tennis professionnelle.
Oh putain, merde! Tu fais chier, merde! Mais qu'il est con, ce Klebs!
C'est donc aujourd'hui que tout le monde a décidé de me faire chier. C'est aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous faites, là?
On s'emmerde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Vous savez que je suis en pleine dépression depuis 6 mois.
Ah oui?
Ouais.
Calcul en cours.
Calcul en cours et ferme-la, connasse.
En plus, je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles, là, ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil.
Des smileys, ça?
Ouais, voilà, les ça, là.
C'est redondant au jour d'aujourd'hui, c'est redondant. C'est pas français, c'est un pléonasme. C'est comme si tu disais « à partir de dorénavant ».
Ah bon? Alors voilà, à partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer. Je te donne le choix entre deux possibilités. Soit tu vas foutre immédiatement ton costume de laquais et cette putain de perruque sur la tête et tu retournes travailler. Soit ouais. Tu refous ton pyjama infâme là en éponge et tu vas voir tes chaînes d'infos en boucle dans ta petite maisonnette. Ah, t'as vu, encore un deuxième pléonasme, petite maisonnette. En fait, celui qui veut pas mettre de costume, bah y a aucun souci. Aucun. Il va au vestiaire, il prend ses petites affaires et puis rentre chez lui avec ses petits pieds.
Didier, tu peux pas quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le cul.
C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas.
Ah, quel mépris. 2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible, il y a que du mépris là-dedans.
Ils se sont excusés, Georges, ça arrive d'être coincé en voiture.
Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche.
Vous avez rien remarqué, vous?
C'est-à-dire?
Vous avez pas vu que je me suis rasé la moustache?
Ah bah oui, dites donc. Mais non, j'avais pas vu. Ah oui, vous êtes rasé la moustache, j'avais pas vu.
Personne ne voit.
Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. Elle vend le pain. Le pain. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo, sur le destroy.
Voilà, enfin l'émission, un rappel des grands titres de ce 24 janvier. Le Victoria enregistre un 18e jour consécutif sans cas de coronavirus transmis localement. Le trésorier fédéral Josh Frydenberg déclare qu'il est inévitable que les géants du numérique comme Google et Facebook paieront pour le contenu. Le président français Emmanuel Macron veut durcir la loi contre l'inceste. Merci et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur
facebook.com/sbsfrench.